Alors, après plus de 4 ans de procédure, 4 ans et demi pour être plus précis, de délais, de revirements, d'atténuation des charges, de requêtes, le juge Perrault a prononcé hier l'exonération complète de Nathalie Normandeau et de ses co-accusés. Et comme je le disais, d'après moi, quand on va regarder dans le rétroviseur là, le 31 décembre, pour regarder, ouais, puis 2020, il n'y aura pas juste le COVID. Il va aussi y avoir ce jugement-là qui est historique. Donc, l'exonération de Nathalie Normandeau, ex-vice-première ministre. Faut-il le rappeler, arrêter un jour de dépôt du budget libéral et toute la saga que vous connaissez et qu'on vous a résumé plutôt à l'émission. Et on poursuit la discussion avec Mathieu Galarneau, qui est porte-parole de l'UPAC. Monsieur Galarneau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Charon, ça va bien?
Oui, vous aussi?
Oui, très bien.
Bon, bien dormi la nuit passée. Ça devait être une bonne journée hier, quand même.
Oui, effectivement, c'était une très bonne journée hier, mais bon, on prend une bonne nuit de sommeil puis on recommence.
OK. Votre analyse, là, après quelques heures maintenant, près de 24 heures du dépôt de ce jugement-là, quel regard vous portez sur le jugement du juge Perrault?
Ben, c'est sûr que pour nous, il va falloir prendre acte de ce jugement-là, le lire en entier, l'analyser, voir qu'est-ce qui peut être amélioré à l'UPAC, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleures pratiques, avoir la meilleure confiance du public. Aussi, là, je crois que nous, vers quoi on s'enligne pour les prochains mois, c'est vraiment de travailler à regagner la confiance de la population. Ce sera pas en criant ciseaux ou du jour au lendemain, mais il va falloir effectivement mettre les efforts nécessaires pour expliquer notre mandat, expliquer notre mission, qu'est-ce qu'on fait à l'UPAC, puis montrer que l'UPAC est toujours pertinente et le sera là, lorsque l'unité permanente anticorruption a été créée. Il y avait un problème, mais certainement, mais au final, ce qu'on veut, c'est de bien défendre nos institutions démocratiques, de bien défendre la manière dont nos contrats publics sont alloués à des entrepreneurs. Puis ça, c'est un travail qui va se faire justement de façon permanente.
Mais le problème, c'est que, et puis le juge Perrault a quand même pas été doux à l'égard de l'UPAC hier en critiquant le projet A là, sur les l'enquête sur les fuites policières qui a mené à l'arrestation de Guy Ouellet, d'enquête bidon. Il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder un peu le bilan là, depuis la création de l'UPAC puis qui se disent, ben là, c'est parce que à date, on a l'impression que les gros poissons, vous êtes pas capable de les sortir de l'eau. Là. Alors, est-ce que l'UPAC est vraiment efficace?
Ce qu'on prend sur nous, c'est qu'au cours des 2 dernières années, il y a des choses qui ont été faites à l'UPAC déjà pour améliorer certaines pratiques. On a revu l'entièreté de nos enquêtes, ce qui fait qu'on a eu certains délais. Il y a des délais qui sont attribuables, bien sûr, au processus judiciaire dans nos dossiers, mais ce qu'on a omis de communiquer, c'est à quel point on met des efforts pour améliorer l'UPAC en soi, l'institution. Nous croyons qu'elle est toujours d'actualité, qu'elle a toujours sa place dans la société québécoise, puis on va continuer à marteler ce point-là. Est-ce que l'UPAC est sans reproche? Ben, écoutez, là, il faut analyser tout ce qui est devant nous.
Ouais, mais ce qui est devant vous quand même, c'est que hier, le juge, il critique le projet en disant c'est une enquête bidon. Ça devrait être un constat d'échec au minimum là, pour l'UPAC.
Ce que nous, on dit aujourd'hui, c'est que le projet A, dès que le nouveau commissaire, Frédéric Gaudreau, est entré en poste, on l'a transféré au bureau des enquêtes indépendantes. C'est devenu le projet Serment. Je crois que c'était la meilleure chose à faire. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on travaille à améliorer nos processus, déjà là, ça, c'est une des choses qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à améliorer? Certainement, je veux dire, on est une jeune organisation, on n'a même pas 10 ans aujourd'hui. Si on compare, par exemple, avec la Sûreté du Québec, qui a une histoire de 150 ans, est-ce que la Sûreté du Québec a encore des processus à améliorer? Je pense que oui, comme n'importe quelle autre organisation, comme n'importe quelle autre compagnie peut dire on peut améliorer nos processus. Pour une jeune organisation, on n'est pas encore en train de se mettre en place, de développer nos pratiques, nos politiques à l'interne. Maintenant, le défi qu'on a, c'est, oui, on a une bonne côte à remonter dans la confiance de la population, puis il va vraiment falloir expliquer mieux qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait et pourquoi on le fait surtout.
Mais vous n'avez pas peur que peu importe ce que vous allez faire, si vous gardez, tu sais, quelque part, on disait un peu de façon ironique hier, tout ce même de fermer l'UPAC, de repartir ça sur un autre nom. Au niveau de la confiance du public, ce serait peut-être pas mieux justement d'agir un peu comme ça? Parce que la crédibilité n'est plus là, là.
Écoutez, avant l'UPAC, c'était 7 enquêteurs à temps partiel, puis on a eu des gros stratagèmes. Les gens se cachaient même plus pour faire de la corruption, de la collusion au Québec. Est-ce qu'on veut vraiment retourner à ce système-là? Moi, je crois pas. L'UPAC a, des enquêtes, mais c'est pas la seule mission de l'UPAC. On a un gros volet de prévention qu'on a rencontré plus de 30 000 fonctionnaires depuis la création de l'UPAC pour les sensibiliser à c'est quoi de la corruption, c'est quoi les dangers, c'est quoi les risques. On a créé des politiques de risque pour tous les organismes publics, pour tous les ministères, pour s'assurer que, justement, les gens en poste qui peuvent donner des contrats publics soient sensibilisés aux risques. Écoutez, on travaille très fort, ne serait-ce que dans ce volet-là. On a aussi un volet de vérification des entreprises, donc on vérifie l'intégrité des gens qui sont qui veulent transiger avec l'État. Donc, on a une structure qui, je pense, fait le travail, mais est-ce qu'elle peut mieux faire le travail? On va regarder tout ce qui est devant nous pour s'assurer que ce soit fait.
Mais la question de Vez est pas anodine, là. Quand on pense à l'UPAC, on pense à Frank Zampino qui a aussi obtenu un arrêt des procédures parce qu'il avait été victime d'écoute électronique illégale de la part de vos enquêteurs. On pense à tous ces... oui, effectivement, on a réussi à arrêter le maire Vaillancourt, mais il y a tellement de dossiers, pas plus tard qu'en... C'est-tu en janvier dernier qu'un de vos ex-enquêteurs ont réalisé qu'il avait donné des informations à monsieur... voyons comment j'ai Catania en tête, mais comment il s'appelle... En tout cas, bref, le yacht, là.
Accurso.
Accurso, bon, merci, Vez. Qui avait donné des informations à monsieur Accurso parce qu'il jugeait que pour une histoire de jury contaminé et de méthode d'enquête de vos enquêteurs qui avaient posé des questions au jury par rapport à leur réaction sur leur méthode, avaient jugé que c'était pas équitable pour M. Accurso. Un enquêteur de police peut pas aller donner des informations comme celle-là à un accusé. Il y a des choses dans vos méthodes qui ne fonctionnent pas, M. Galarneau. Alors, comment on fait à partir de maintenant pour... Je veux bien là que vous preniez acte du jugement puis que vous faites un examen de conscience, mais vous allez faire quoi réellement pour changer dans des... On parle de méthode, là, tu sais, c'est vraiment dans le fonctionnement même de l'UPAC. Comment vous faites pour modifier ça à un point tel qu'on réussit à changer l'opinion du public à l'égard de l'institution? Moi, je pense que c'est une côte qui est peut-être impossible à remonter. C'est ça la question. Est-ce qu'elle peut vraiment être remontée, cette côte-là?
Moi, je suis d'avis que oui, elle peut être remontée. Est-ce que ça va se faire en dedans de un mois, trois mois, six mois? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un travail qui doit être fait à long terme pour regagner la confiance du public. Si on revient sur les méthodes, ce qu'on peut dire, c'est que, justement, le travail de l'UPAC a fait modifier la jurisprudence au cours des dernières années. Et, justement, la jurisprudence, peut-être qu'elle a été défavorable à notre endroit, mais elle a fait en sorte que certaines méthodes ont été clarifiées pour les policiers et clarifiées pas seulement pour les policiers de l'UPAC, mais pour les policiers de partout au Québec et même, je dirais, au Canada, parce que les jugements, ce sont des jugements de nature criminelle, donc qui s'adressent à tout le Canada. Donc, simplement, le fait qu'on enquête la corruption, on découvre comment on doit le faire et on découvre qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Donc, quand on dit qu'on travaille à l'amélioration de nos processus d'enquête, ben ça découle de ça aussi. Puis ça, on pouvait pas le savoir en 2009 ou en 2011 lorsqu'on a créé l'escouade Marteau puis l'UPAC. Donc, il fallait que les choses se passent. Je le répète, on est une jeune organisation, on n'a pas 10 ans derrière nous. Mm-hmm. On travaille très fort, on a une équipe de gestion qui a été renouvelée depuis 2018. Ouais. On redouble d'efforts, on met les bouchées doubles, puis on va continuer de le faire parce qu'on juge que la corruption au Québec... C'est important de s'y attaquer. Ça mine nos institutions démocratiques, puis il ne faut pas lâcher prise.
Vous m'avez parlé de la nouvelle équipe de gestion. Ça me permet de vous citer Marcel Forget, ex numéro 2 de l'UPAC. Lors de son témoignage au procès la semaine passée qui a intenté, il a intenté le procès avant, mais la semaine passée, il témoignait dans le procès qui a intenté contre le gouvernement pour congédiement illégal. Il a dit que les arrestations des ex-ministres, donc Mme Normando, M. Côté et autres, et le renouvellement du mandat de Robert Lafrenière pour 5 ans en 2016, avait fait de lui quelque chose de plus gros que l'UPAC, de plus gros que le gouvernement et que les députés en avaient peur. Ensuite, hier, c'est au tour de Mme Normandeau de pointer Robert Lafrenière, de rappeler le contexte de son arrestation, le jour du dépôt du budget libéral, 2 semaines avant le renouvellement de son mandat. Moi, je crois pas à ces coïncidences-là, sinon j'irais pas mal plus souvent au casino. Diriez-vous que M. Lafrenière a une part de responsabilité dans les déboires de l'UPAC à ses débuts?
Je dirais que M. Forget, Mme Normandeau, on doit à leurs opinions. M. Forget est devant les tribunaux, donc je vais réserver mes commentaires. Moi, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, on travaille à améliorer l'UPAC. On a un travail d'être plus présent avec vous dans les médias pour mieux expliquer notre rôle, de mieux expliquer pourquoi on fait les choses d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer nos processus. Puis c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui.
OK, mais le rôle de M. Lafrenière dans les performances, je veux dire, de l'UPAC à ses débuts, c'est quoi?
Ben, le rôle de M. Lafrenière, c'est qu'il a fondé l'UPAC et puis il a fait son travail de commissaire jusqu'à sa démission. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que on a une équipe de gestion qui est renouvelée. On a un nouveau commissaire, Frédéric Gaudreau, qui met sa vision de l'avant, qui est là avec son équipe, qui travaille. On a un nouveau commissaire associé aux enquêtes qui a été nommé en mars dernier, qui s'appelle Sylvain Baillargeon. Mmh. Et on a un commissaire associé aux vérifications qui est Maître Éric René, qui est un civil. Et puis, on travaille tous ensemble pour améliorer toutes les pratiques de l'UPAC. Là.
Jugez-vous que l'UPAC, aujourd'hui, remplit bien son mandat?
Moi je suis convaincu que l'UPAC est nécessaire. Je suis convaincu que l'UPAC a rempli son mandat. Est-ce que il y a des choses qui ont été faites dans le passé qui auraient dû être faites différemment? Certainement, le constat va continuer à être fait aujourd'hui, va continuer à être fait dans l'avenir. On améliore nos politiques internes, on améliore nos pratiques, on veut être mieux compris de la population, donc on met des efforts là-dessus, puis on va continuer de le faire parce que, justement, comme je me répète, mais la corruption, ça a toujours existé, ça existera toujours, mais si on a des organismes, un système qui permet de protéger notre État, ben notre démocratie va juste en sortir plus fort.
Monsieur Galandeau, je dois avouer que je suis quand même extrêmement satisfait de savoir que vous faites face à la musique. On est d'accord tous les deux que c'est peut-être pas le moment où le public a eu le plus confiance en l'UPAC, mais ça aurait été facile de refuser les entrevues puis de s'en tenir à dire on va prendre acte du jugement puis on s'en reparlera le mois prochain. Ça fait que j'apprécie que vous ayez pris quelques minutes pour nous ce matin.
Ben, je pense que ça relève de notre mandat. La corruption, pour nous, c'est pas une chose qu'on peut enquêter en criant ciseau. On dit souvent que la corruption, c'est qu'il n'y a pas de victime. La victime, c'est l'État. Donc, c'est très difficile aussi d'aller prouver ça. Donc, on est dans un contexte qui est difficile. Ouais. Comme vous dites, il faut faire face à la musique, il faut être là avec vous, il faut expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis vers où on s'en va vers l'avenir. Je suis très content de le faire avec vous ce matin.
Ben, merci beaucoup, M. Galarneau. Passez une bonne journée.
Bonne journée.
OK, au revoir. Mathieu Galarneau est porte-parole de l'UPAC. Et je veux le préciser, là. Il y a des organisations, il y a des politiciens, des ministres à qui c'est à peu près impossible de parler, à moins là, que tu sois un chum de longue date, là, mais à qui on pose des questions, puis jamais de retour, même pas d'accusé de réception, puis on invite pour des entrevues, puis jamais disponible. Il n'y a pas moyen de rien faire. Puis le lendemain du jugement qu'on a Nathalie Normandeau, où un juge, je le rappelle, qualifie le projet A, l'enquête de l'UPAC sur les fuites policières qui avaient mené à l'arrestation de Guy Ouellet, il a qualifié d'enquête bidon. Chaque mot prononce sévère, un juge, c'est important. C'est très, très sévère. Alors, je dois le dire, je salue quand même le fait que M. Galarneau, porte-parole de l'UPAC, est avec nous ce matin, ne s'est pas défilé. Écoute, puis... Je trouve beaucoup de défauts ces temps-ci à l'UPAC. Je l'ai dit depuis ce matin, là, on le répète, là. Mais pour moi, ces temps-ci, l'UPAC a plus de défauts que de qualités. Oui. Mais ils n'ont pas le défaut de se défiler, par exemple.
Exact.
Et ça, je le salue. Cela dit, ça ne me fait pas plus croire à l'addon de l'arrestation le 17 mars 2016 de Nathalie Normandeau au jour du dépôt du budget.
Exact.
Je crois pas plus à ça. Je crois pas plus que c'est une coïncidence. Je crois pas plus que c'est un hasard. Et même si vous me demandez mon avis... puis on le saura plus tard quand les fuites policières, ce sera peut-être quand ce nœud-là sera dénoué, là, on en saura peut-être un peu plus, puis peut-être un jour on en connaîtra plus sur le rôle de tous et chacun dans les échecs de l'UPAC. Le message que moi je retiens de M. Gallarneau ce matin, c'est qu'ils travaillent à améliorer leur processus et Frédéric Godreau, le nouveau patron. Si on réalise que dans le fond, la solution, c'est pas de fermer l'UPAC. Je ne sais pas, moi, c'est quoi la bonne solution. Moi, je suis animateur de radio. Il y a le législateur qui va se pencher là-dessus, les gens de la sécurité publique, les gens des corps policiers, les avocats, puis tout. Eux autres, ils vont faire cette job-là. Est-ce qu'on garde l'UPAC, est-ce qu'on maintient l'UPAC en place ou non? Parfait, on verra. Bon, c'est sûr, ce matin, j'ai le goût de dire, on met la clé dans la porte, on ferme, c'est tout. Mais ça, c'est juste une opinion.
Il y a quand même quelque chose de vraiment problématique quand, si tu penses à UPAC, l'Unité permanente anticorruption, tu dis, il y a bien quelque chose de sérieux dans la vie, de crédible, tu dis, c'est ça.
Ouais,
mais aujourd'hui, quand on parle de l'UPAC, ça sonne, ah, bonne blague.
C'est ça, je sais. Mais
c'est pour ça, ça
que,
pas,
c'est
là.
Pour ça, tantôt, que j'ai qualifié la pente de d'impossible à remonter. Mais c'est mon avis. Ce que je veux dire, c'est, si on se fait dire plus tard, bientôt, que la solution, c'est pas de mettre la clé dans la porte de l'UPAC. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être il y a encore de la corruption, puis il faut essayer de trouver un moyen d'épingler les bandits et autres. Mais s'il y a une personne, je pense, en qui on n'a pas vraiment le choix de mettre notre confiance, c'est Frédéric Godreau. Et s'il y a une personne en qui, moi, j'ai jamais vraiment eu confiance, puis je tends à penser que peut-être que l'avenir nous le démontrera, c'est M. Lafrenière. Bon, l'arrestation le jour du dépôt du budget... deux semaines avant son renouvellement.
Ouais, c'est sûr.
Les histoires. Puis c'est juste des allégations en passant quand j'ai cité Marcel Forget, l'ancien numéro 2, là, qui dit que les députés n'avaient peur. Ils avaient peur d'être mis sous écoute électronique, ils avaient peur d'être sous enquête. Puis les gens avaient peur de Lafrenière, selon Forget. C'est juste son témoignage à lui. Lafrenière, il nie ça, lui. Mais pour moi, il y a quelque chose qui. Il quitte en plus le jour de l'élection de la CAQ. T'sais. Ah, il quitte, puis il dit rien, il disparaît. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Il y a quelque chose qui se peut pas, là. Moi, j'ai tendance, personnellement, à trouver que ça pointe vers là. Mais bon, on verra. L'avenir nous dira si j'ai raison, si je suis dans le champ, parce que je peux absolument être dans le champ.
Mais ils ont le mérite d'être allés au bat.
Absolument, c'est ça.
Ils ont peut-être frappé quelques fausses balles, là, mais ils sont allés au bat.
Mais ça, je le reconnais, ouais. 9h27 minutes, on revient.
Que Québec se lève.
De retour après la pause. C'est le meilleur moment.